Bonjour et bienvenue à notre 17e collaboration du balado super soyeux et polysécure. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam et Nicolas Loïc. Allô les garçons, on a déjà fait notre pré-show, on a discuté, êtes-vous prêts pour l'émission d'aujourd'hui?
Tout à fait.
Yes!
Tout à fait prêt. Et on donne les règles d'engagement dans l'épisode officiel. À chaque fois qu'on parle de AI, je prends une gorgée de vin.
Parfait.
Ça, c'est les règles d'engagement qui ont été faites. On fait un effort particulier pour que je sois capable d'être cohérent jusqu'à la fin de l'épisode.
Pour vous donner un break aussi d'entendre parler de ce sujet qui est omniprésent. Sam, est-ce que tu veux ouvrir le bal avec la Russie?
Oui, c'est ça. J'avais envie de vous parler du système SORM. SORM, c'est un acronyme pour le système pour l'activité d'enquête opératoire. Là. En gros, ce que c'est un système de surveillance des conversations et téléphoniques et de l'Internet en général. C'est quelque chose qui est quand même qui a commencé il y a longtemps. La première version, le SORM 1, c'était en 1995. Puis là, c'était vraiment axé surtout sur le système téléphonique où les compagnies de téléphone devaient installer de l'équipement pour donner accès au FSB, donc au service de renseignement, aux données, aux conversations, puis aussi aux métadonnées là, des appels. Ça a été étendu en 98 pour ajouter les fournisseurs d'accès Internet surtout. Puis là, avec les Jeux olympiques de Sochi, puis là, il y avait tout un genre de discours sécuritaire sur « Ah, il faut faire attention, il va peut-être avoir des terroristes, etc. » Mais à ce moment-là, ben, ils l'ont étendu encore plus. Donc, il y a eu j'ai vu des dates différentes, là, mais disons, entre 2013 et 2015 à peu près, là, il y a vraiment eu comme une augmentation là, de l'utilisation. Puis ce qui est quand même fou, c'est que cet équipement-là, il est obligatoire, mais c'est à tes frais. Donc, la compagnie qui fournit les services d'accès à Internet, votre, ExploreNet.
Le bel russe ou genre on parle
le
de navigateur.
Le bel ou le Vidéotron, okay. Le ExploreNet, machin, doivent eux-mêmes installer cet équipement-là sur leurs infrastructures. C'est à leurs frais. Puis ça coûte quand même un certain montant. J'avais vu des chiffres, là, selon un journal russe, c'était autour de 70 000 $ pour installer ça. Puis il y a beaucoup de très petits fournisseurs d'accès Internet qui sont pas capables de payer ça. Fait que là, pendant un bout de temps, ils faisaient pas en disant, ben écoute, je peux pas le faire, je le ferai pas. Mais là, il paraît que les autorités sont de plus en plus en train de leur taper dessus, leur imposer des amendes et surtout, ce qui fait encore plus mal, un retrait de leur permis pendant 10 ans, ce qui, en gros, tue la business, là, sans le dire. Récemment, c'est quand même quelque chose. Puis, tu sais, c'est vraiment un truc très intrusif. Donc, ça va surveiller les communications. Ça permet aux autorités de faire des recherches. Donc, ils peuvent rechercher par mots-clés, ils peuvent rechercher des utilisateurs. Puis, récemment, le gouvernement a rajouté des données qui doivent être ajoutées dans cette base de données-là, dont les adresses personnelles des gens. Des données de passeport, des données bancaires, des coordonnées de géolocalisation, les adresses IP qu'ils utilisent, les noms de domaine, leurs adresses courriel, toutes. C'est vraiment, vraiment assez... J'ai envie de dire dystopique, mais c'est pas de la science-fiction. Là. C'est vraiment quelque chose qui existe en ce moment. Puis il y a vraiment une espèce d'intensification de cette surveillance-là. Parallèlement à ça, comme il y a beaucoup...
Parenthèse, la dite surveillance, elle est tournée vers l'extérieur ou tournée vers les citoyens?
Vers l'intérieur, c'est les citoyens qui sont surveillés.
C'est vraiment, ils ont ce contrôle de la population intérieure. Ouais. C'est pas sans rappeler toutes les façons que les Américains étaient dans les grands commutateurs téléphoniques à une certaine époque, étaient branchés directement à l'intérieur de ceci. Ouais. C'est pas un playbook qu'on est particulièrement étranger, ouais. Disons.
C'est ça. C'est le même genre de système que le... C'est quoi, Echelon, que ça s'appelait, là, le système que Snowden avait mis à jour? Puis là, c'est en train de s'intensifier aussi parce que, ben à l'intérieur du pays, il y a de la grogne parce que la situation économique va pas bien, parce que la guerre qui devait être finie en 2 semaines, ben ça fait 4 ans qu'elle dure, parce que il y a des villages... Tu sais, à Moscou encore, pour l'instant, tu sais, pendant longtemps, ils voyaient pas les effets de cette guerre-là, mais en périphérie, eux, ben les jeunes... partent et reviennent pas. Puis c'est un peu la paranoïa ou la peur un peu que le peuple se soulève ou qu'il y ait comme de la grogne ou de l'agitation de l'organisation qui se fait, qui semble augmenter là, ce désir là, de contrôler les communications. Parallèlement à ça, tu as aussi la tradition de tout ce qui est VPN. On en a parlé un peu avant sur le fait qu'on trouvait que ça servait à rien, mais dans un contexte comme par exemple en Russie où, au-delà du somme, tu as aussi des listes de blocage où tu as plein de sites qui sont interdits d'accès, ben la seule façon d'y accéder, c'est en utilisant un VPN. Puis là, ces VPN-là sont rendus de plus en plus difficiles. D'ailleurs, puis là, je sais pas, parce que la source n'est pas très fiable, mais il y a eu beaucoup de pannes, là, Internet, là, surtout au niveau des communications cellulaires, principalement parce que je pense que l'État essaie de couper certaines affaires parce qu'il disait que les drones ukrainiens utilisaient ces réseaux-là. Mais là, il fermait l'Internet pour comme la moitié de la population. Puis, il y a eu un moment donné où tous les systèmes de paiement ne marchaient plus parce que selon une des sources qui n'est pas super fiable, c'est parce qu'en voulant fermer les VPN, ben, il avait pas pensé que les banques utilisaient des VPN pour communiquer entre eux. Fait que là, ça a comme fermé les communications interbancaires là, qui utilisaient ces technologies-là.
Si on remet, puis je ne sais pas à quel point ce que tu as lu le mentionne, la coupure de l'Internet en Iran, ça a été rebranché il n'y a pas très longtemps. À mon avis, c'était la période qu'il avait besoin pour réussir à faire un système qui était probablement similaire à ce que tu mentionnes. Ça, c'est mon take, là. C'est pas, j'ai rien de scientifique dans ce que je fais recherché, mais mon impression, c'est qu'ils ont réouvert parce que maintenant, ils ont le contrôle et avant, ils ne l'avaient pas, fait qu'ils l'ont fermé.
Ben, j'avais lu un article sur le fait qu'en Iran, ils sont en train comme de monter un système où c'était comme une liste blanche d'Internet. Fait que c'est comme ceux qui avaient accès à Internet, c'est ceux à qui qu'on donne accès à Internet. C'est pas, il y a un système, puis on va contrôler un peu ce que les gens font dessus. C'est, ben, toi, t'es loyal, fait que toi, tu peux y aller sur Internet. Mais j'ai pas vu plus récemment. J'étais allé à la première édition de cette conférence-là qui s'appelle SplinterCon, qui est sur le Splinternet, donc l'espèce de séparation de l'Internet en plusieurs petits royaumes, disons, là, comme l'espèce d'illusion là, d'une communication planétaire et mondiale, elle est un peu terminée. On a, tu sais, la censure par la Chine, on a la Russie qui est rendue pas mal son propre système, t'as des fermetures d'Internet un peu partout, dont en Iran. Puis eux, ils ont vraiment des chercheurs et des gens qui travaillent sur ces choses-là. En tout cas, récemment, il y en avait une autre en ligne parce que, en tout cas, on rentrera pas là-dedans, mais leur conférence s'est fait annuler. Ils ont pas pu aller où ils devaient aller, mais ils l'ont tenue en ligne là, à la dernière minute. Puis, c'est ça, ils parlent un peu aussi de ces choses-là, là, de toutes les pressions des gouvernements, des régimes répressifs là, pour essayer de fermer l'accès à Internet.
Sortons un peu des régimes répressifs parce qu'il y a Chat Control en Europe, C22 au Canada, il y a le UK qui a sa propre loi qui est en train de faire ça. Fait que c'est une épidémie. Tant qu'avoir parlé ça en pré-show, c'est à mon avis, c'est même plus juste les régimes totalitaires qui se prévalent de ces mesures de contrôle-là.
Oui. Mais t'as raison parce que la technologie existe. Puis c'est tentant là, d'installer ces systèmes-là ou de. Au début, c'est ça, c'est pour des bonnes raisons, entre guillemets. Là, on veut protéger les enfants.
La sécurité. Ouais.
C'est ça. Le dernier aspect que je pense que c'est encore plus récent en Russie, là, c'est que tous les fournisseurs de services sur Internet, maintenant, peuvent juste. Les gens peuvent juste s'authentifier. Fait que tu peux juste comme t'enregistrer sur, je sais pas moi, que ce soit l'application pour te faire livrer ta bouffe ou pour, je sais pas moi, n'importe quelle application. Avec un identifiant, entre guillemets, russe. Puis c'est un identifiant qui peut t'identifier. Donc, c'est soit ton numéro de téléphone, une adresse courriel comme d'un service domestique ou que t'es déjà, t'sais, qui ont le système SORM, etc. Fait qu'il y a vraiment comme une accélération. Puis malheureusement, ce qu'on voit là, ben, comme tu dis, il y a une tendance global dans cette direction-là. Fait que oui, je pense que les régimes dits démocratiques sont pas nécessairement là à l'abri non plus.
Oui, puis ça me fait penser, quand j'étais en Corée, c'est une des choses qui m'avait un peu frappée, que, mettons, le Google Maps officiel de la Corée, c'est Naver. Pour s'inscrire à Naver, il faut un numéro de téléphone. Pour avoir un numéro de téléphone, il faut l'enregistrer avec ton identité. Fait que, tu sais, tes comptes en ligne, tous tes comptes en ligne, en fait, tous les sites pour t'enregistrer, ben, il faut que tu aies un numéro de téléphone coréen, ce qui fait qu'il faut que tu aies révélé. Fait que, tu sais, mettons, moi, même pour avoir ma eSIM, il a fallu que je donne mon passeport là, carrément, puis c'est tout fonctionné avec le passeport pour faire une identité. La plupart des boutiques avaient quelque chose pour scanner mon passeport pour comme traquer les achats que je faisais à l'intérieur du magasin. Et tu sais, puis c'est un pays qui est théoriquement démocratique aussi, mais cette surveillance-là était quand même très frappante là, par rapport... tu sais, si je peux m'ouvrir un compte Google sans révéler là, l'entité de mon existence aussi. Tu sais, comme oui, Google me traque d'autres façons, mais je pourrais théoriquement créer un compte sans nécessairement que ce soit officiellement lié à mon identité.
Puis je vais ramener l'expérience plus vers l'Europe, la France et la Belgique, parce que c'est ceux que je connaisse. Pour acheter une eSIM ou une SIM, il y a un certain degré d'identification que tu dois donner. Tu ne peux pas arriver là et acheter une SIM puis t'en aller comme un truand, finalement, parce que c'est comme ça que tu es traité. Et aux États-Unis, ils vont justement stopper les burners aussi. Fait que ça, eux autres aussi sont en train d'embarquer dans cet univers-là d'obligation d'identité absolue avant d'avoir un numéro de téléphone. Là, c'est rien de spectaculaire.
Oui, puis après, c'est le site web force que tu aies un 2FA qui est connecté au moins par SMS, ben, ça fait que par la bande, il faut que tu donnes ton numéro de téléphone pour te connecter automatiquement. Fait que définitivement, je pense que je pense que la différence avec la Russie et le reste du monde, c'est que c'est juste plus transparent sur le fait que les gens soient traqués, alors que c'est sûr que dans d'autres pays, il y a d'autres méthodologies pour se traquer.
Ben, c'est plus loin. Je veux dire, il y a un contrôle plus grand, plus brutal même. C'est plus répressif.
Fait qu'on est
en retard.
Oui. Ben, on est sur le même chemin, on est juste en retard, essentiellement, c'est le même pack. Ouais. Ouais. On s'en va sur la même route, tout le monde. Là. C'est ce que la Russie a...
Ben, c'est ce qu'on peut, ce qu'on voit avec C22 au Canada, dans le sens, puis le degré d'opposition que face à cette loi-là démontre qu'on est en train d'embarquer tranquillement dans ce chemin-là, nous aussi, sous des prétextes qui sont malheureusement mal défendus. Là. Puis j'avais... C'était dans un de mes épisodes sur l'actualité, le cafouillage. J'avais tiré d'un blog très intéressant qui parlait justement le cafouillage entourant C22 est probablement le plus gros problème de cette loi-là, plus que son contenu. Parce que s'il était capable de le défendre, capable de le débattre, d'amener cet espace-là qui est très important en démocratie, ils sont pas capables d'aller là, utilisent de la démagogie, c'est improvisé, c'est à moitié maîtrisé. Donc, on a un problème fondamental du démocratique en C22, avant même tout l'aspect surveillance qui lui-même est problématique dans cette loi-là.
Ce que je me demande, par contre, quand tu racontais, Sam, toutes les choses qui sont essentiellement capturées, je me disais, mais cette base de données-là, essentiellement, elle se fait hacker un jour, c'est la fin, là, comme littéralement chacun des citoyens russes a l'entièreté de ses informations personnelles out there.
Dans une seule et même
database unique.
Dans laquelle tu peux faire des recherches avec des wildcards, des astérix pour trouver...
Nice.
Ce n'est pas sans rappeler que les Chinois avaient rentré dans les systèmes de surveillance américains qui servaient à surveiller les Américains. Donc, c'est sûr que ça devient une cible très intéressante pour le pouvoir opposé qui cherche à avoir des connaissances sur ton pays. Ben, tu sais, c'est comme donner une carte à ton adversaire. Hey! Mon gros trésor, il est là.
C'est littéralement advertising que tu as un gros trésor qui contient l'entièreté des données.
C'est fascinant. On est dans un monde avec des gens, j'ai l'impression, qui ne comprennent pas la portée. Je pense qu'ils arrêtent juste à la première étape. Je veux faire quelque chose, puis ils font quelque chose, mais ils ne comprennent pas que le faire le quelque chose en question a des conséquences beaucoup plus profondes qui, dans le monde virtuel, n'ont pas tant de limites. Que dans le monde physique, il y a une certaine limite, fait que tu peux faire une erreur, puis c'est pas si pire, la portée va être plus réduite. Dans le virtuel, la portée, elle est très grande. Fait que si tu fais une loi trop permissive sur de la surveillance, ou ce que les Russes font, la conséquence, c'est que là, ils vont ouvrir. Fait que c'est sûr que les pays adverses on va dire les États-Unis en l'occurrence, parce que c'est drôle, guerre froide, vont s'intéresser à cette base de données-là puis aller la siphonner au complet. C'est comme un peu marqué dans le ciel. Fait que c'est fascinant, toute cette incompréhension de la ramification, des effets inattendus, de tout ça. En tout cas, bref, moi, je suis malheureusement pris dans l'histoire, là, mais je suis fasciné par l'incompréhension des gens, les décisions qu'ils prennent, puis les conséquences sociales importantes que ça leur a sur la population de leur pays. Là, je parle pas de la Russie, en l'occurrence, là, je parle des autres pays d'Occident qui font des choix similaires.
Mais tu sais, parlant de choses que les gens ont mis en place sans penser aux conséquences, ça m'emmène un peu à notre deuxième sujet qui est Flock, justement, que je ramène sur la table. On avait parlé au dernier balado. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, Flock, c'est un système essentiellement qui sert à relier plein de vidéos de surveillance ensemble pour traquer des plaques d'une trication grâce à l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas le sujet de la chose. Le sujet, en fait, c'est l'abus de cette technologie-là. Puis, on en avait parlé qu'il y avait eu quelques cas d'abus qui étaient ressortis, des trucs quand même assez drôles, entre autres un directeur qui s'était servi de la caméra pour aller comme traquer dans des écoles, etc. C'était comme weird. Mais là, depuis, on avait parlé du site Have I Been Flocked, qui est un peu l'équivalent, là, qui permet aux gens de tester leur plaque d'immatriculation puis voir si il y a des gens qui ont utilisé Flock pour rechercher leur plaque d'immatriculation. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des très mauvaises surprises. Entre autres, une personne qui a réalisé qu'un certain système de police, un bureau de police, avait recherché sa plaque d'immatriculation plus qu'une centaine de fois. Puis, dans le fond...
c'est absurde.
Fait qu'elle a porté plainte. Fait que la police a fait un audit interne. Mais ils ont été relativement transparents. Et en fait, ce qu'ils ont ressorti de ça, c'est que non seulement cette personne-là avait été traquée 100 fois, mais l'officier qui avait fait ça avait traqué une autre plaque 124 fois en l'espace de 2 mois. Je voulais deviner que les deux personnes étaient des femmes. Donc, c'est pas relié là, à quoi que ce soit. C'était juste un policier qui avait pogné une lubie là-dessus. Un autre cas dans le même bureau de police qui s'était fait prendre à un chef de police, en fait, qui s'était fait prendre à stalker sa femme. Il n'avait pas confiance de où est-ce qu'elle allait, fait qu'il la traquait à travers le système Flock. Puis, plein de cas un peu absurdes comme ça, là, où est-ce qu'il y a comme des plaques qui ont été données là, des centaines de fois par des fois des victimes qui ne savent même pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Ils connaissent pas nécessairement l'officier, etc. Et la réponse de Flock à tout ça, c'est que dans les faits, on devrait être vraiment grateful d'avoir ces informations-là parce que c'est grâce à leur transparence que Avab et Flock peut même permettre d'aller faire cette validation-là.
Quand même, c'est là. Du grand n'importe quoi. Là. C'est comme... Ah non, oups, j'ai commis un crime, mais c'est pas grave. Maintenant, vous l'avez vu, c'est merveilleux.
Il nous demande de faire confiance aux audits policiers qui peuvent review les logs.
Parce que tout le monde sait que les logs, c'est régulièrement revu.
C'est fou, l'auditer souvent, là, clairement. Par les gens qui ont fait le stalking.
C'est moins intéressant de regarder les logs que de stalker quelqu'un sur des caméras. C'est étrange, je comprends pas pourquoi, mais c'est moins populaire, étonnamment.
C'est vrai.
Mais oui,
pas plein de policiers qui se font attraper à regarder les logs.
fait que c'était mon follow-up là-dessus. Puis qu'est-ce que, pour moi, ce que ça me dit, c'est que justement la sensibilisation sur cet enjeu-là, elle est importante. Parce que s'il n'y avait pas eu de sensibilisation faite dans les médias sur justement avec Bill Flock, ben ces gens-là, ces victimes-là, n'auraient jamais pu savoir qu'elles étaient essentiellement traquées par des corps policiers.
Et au-delà de la sensibilisation, c'est l'espace des médias pour faire enquête, pour rechercher. Là, c'est, je lance des fleurs à Sam, qui est le seul vrai journaliste parmi nous, mais qui est important ce travail-là parce qu'il justement permet de découvrir et de sensibiliser l'ensemble de la population et de corriger des actes qui sont non alignés avec les valeurs de la société dans laquelle on est. Mais c'est très, très important de relever ce type de choses-là et que ça soit remonté. Puis malgré le gouvernement qui est en place aux États-Unis, les médias continuent à remonter des éléments importants. Bon, il y a des choses qui pourraient ne pas rapporter par ailleurs, mais globalement, quand on continue à nous informer d'actes qui sont pourraient considérer comme étant répréhensibles, et je vais faire une deuxième parenthèse, c'est tout le monde, puis on fait par rapport aux lois, tout le monde veut une société juste, équitable, sécuritaire, machin, puis ils sont prêts à sacrifier beaucoup de choses. Le réel, et c'est justement le volet des audits, si c'était une machine dite neutre qui regardait les 10 logs et qui faisait la job, qui en fait une espèce de dieu omniscient, omnipotent, mais bon et généreux, tu sais, tout le monde aimerait avoir ce système-là. Le problème, c'est qu'on est des humains. Fait que ça fait pas ça et ça ne fait jamais ça. Et personne surveille, puis bref, ça finit toujours par se corrompre plus tôt que tard, malheureusement.
Mais moi, je tiens vraiment à souligner le travail de Pierre de l'équipe de FNAC parce que je sais pas si vous vous rappelez mon dernier épisode, on avait parlé de la pub avec Amazon qui a floppé. C'est comme le pire investissement publicitaire de l'histoire de la publicité. Là, ce que je vous ai dit justement de « Ah, mais c'est grâce à notre transparence. » Puis leur dernier argument qu'ils ont proposé dans les remises publiques, c'était que... Parce que là, pour mettre en contexte, depuis le dernier article de Média 404, qui était il y a environ un mois depuis notre dernier enregistrement, il y a 18 nouveaux cas qui sont connus, certifiés, comme qu'on sait que ça s'est existé, plus une autre database qui semblerait pointer qu'il y a une autre vingtaine de cas. Fait que là, on parle d'environ 40 de cas en un mois qui sont découverts. Et la réponse à ça de Flux, c'est que oui, mais on a 140 000 utilisateurs monthly. Donc, tu sais, en somme, tous les cas d'abus sont relativement rares. Flux devrait renvoyer son équipe de peer. Peu importe qui fait les communications en ce moment chez Flux. Au moins, il y a une bonne équipe de peer pour spinner ça pour de vrai, là, parce que c'est vraiment pas le...
Ils ont mis le fils du boss.
C'est pas bon, c'est pas impressionnant. C'est pas impressionnant. Il me semble qu'il y aurait d'autres façons de peut-être comme, essayer de faire passer la pilule qui est pas aussi... Et c'est quasiment impressionnant tellement la réponse est mauvaise, en fait. Je pense que c'est au niveau de l'espace quand il s'était fait hacker qui était comme...
C'est cette zone-là, puis c'est... Il y en a plusieurs qui disent « Ouais, non, mais c'est pas grave, le nombre est petit. » Puis ça arrive régulièrement que cette espèce d'argument fallacieux est cité. C'est dans, en l'occurrence, disons, si on prend l'exemple du stalking qui a été mentionné, un seul cas est un cas de trop.
Ouais, un cas d'abus, c'est un cas d'abus. Là, c'est comme... Puis on en
point
a une quarantaine. Là, c'est comme...
C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un système en place pour empêcher ces abus-là? Tu peux le mettre... dans mon ancienne vie...
Si une personne fait une recherche trop fréquemment, ça bloque le point?
Dans mon ancienne vie, je travaillais à l'hôpital, puis à un moment donné, j'étais responsable d'une équipe. Puis à un moment donné, j'ai reçu un appel pour dire « Tel de vos collègues a regardé le dossier médical de tel autre collègue. Genre, c'est grave. » Puis tu sais, elle l'avait fait avec la permission de l'autre. L'autre avait dit, hey, t'es à l'hôpital aujourd'hui, peux-tu checker quelque chose pour moi? Mais heureusement que là, elle avait la permission parce que sinon, elle se faisait renvoyer à l'hôpital. Elle se faisait retirer son permis, ses privilèges à l'hôpital puis dire, ben, regarde, tu ne peux plus accéder au système informatique. Mais tu sais, il y a un système en place pour tout de suite détecter n'importe quel usage inhabituel. Si c'est pas un patient inscrit sur ta liste de patients puis que tu regardes son dossier, t'es pas supposé. C'est ça. Fait que, on a vu des cas là, de trucs où que ça y avait des ratés même là, mais ça prend des balises là, parce que malheureusement.
Oui, puis si un officier check 124 fois une plaque en deux mois qui n'est pas reliée à aucun cas en cours, comme clairement, il y a comme un moment où est-ce qu'il y a une alerte qui devrait être déclenchée. Oui. Clairement. C'est comme. Je dis pas deux, trois fois, puis comme là, si on parle de 100 fois en deux mois, là. C'est comme c'est anormal qu'il n'y ait pas eu rien qui ait été déclenché.
Ben, les tech bros sont particulièrement positif ou une mauvaise compréhension de la nature humaine, peut-être?
Je te trouve
peut-être qu'on peut assez socialiser pour comprendre comment l'humain fonctionne.
Moi, je pense pas que c'est un bug. Moi, je pense que c'est un feature.
Ça se peut aussi, mais pour l'avoir vu dans d'autres systèmes, c'est souvent des mesures comme ce que la mesure que Sam mentionne, c'est les case loads en santé. Et effectivement, je pourrais y avoir travaillé. Je sais que c'est très, très surveillé, comme au ministère du Revenu, à l'Agence du Revenu, c'est la même chose. Si tu dépasses ton caseload ou tu touches à des dossiers de collègues ou tu touches à des dossiers de VIP, l'alerte elle lève tout de suite. Puis généralement, tu es congédié quasiment aussi vite que ça, avec raison. Mais c'est parce qu'il y a eu des scandales avant qui ont amené à faire ce genre de choses-là. Fait que c'est toujours des modèles réactifs, même encore là. Mais tu sais, puis là, tu sais, après toute l'histoire qu'on a, c'est pour ça que j'ai des tech bros sont enthousiastes, parce que l'histoire récente nous dit que ça va faire ce genre de déviation-là, qu'il va y avoir des humains. On le sait, c'est documenté, c'est fait. Là. Et puis, on peut plus dire, comme les années 70-80, dire « Ah non, on savait pas que ça allait faire ça parce que la technologie est nouvelle. » Là, ça fait 40 ans que la technologie existe. Là. On le sait que l'humain est comme ça. On sait que l'humain, quand il met face à une très grande quantité de données, il y a un certain nombre de ces humains-là qui vont être trop curieux. Dans certains cas, de façon juste de la curiosité désinvolte, ça l'arrive. Mais de plusieurs autres vont le faire de façon plus creepy. Là. Ils vont stalker, ils vont faire des choses comme ça. Parce que c'est comme ça. On le sait. Fait que là, rendu là, c'est de l'aveuglement volontaire. Je dirais pas jusqu'à un feature. Là. Parce que là, ça prendrait de la malice. Là. Puis moi, je crois pas capable de ce genre de ce degré de malice-là. Je crois plus un degré d'incompétence et d'incompréhension.
Le vendeur principal, Checker Jim, décolle. Là. C'est... Je sais pas. Dans ma tête, c'est comme le manque d'intention. Je pense pas qu'il est si naïf par rapport au manque de contrôle par rapport à la chose.
C'est dur de spéculer sur les motivations. Je pense. Je sais pas.
Il y a un point où il y a tellement rien qui est fait que je pense que c'est pas de temps de spéculer. C'est comme. Tu sais, des fois, tu sais, comme je suis d'accord qu'il faut pas dire que c'est de la malice versus juste de les compétences, mais il y a un point où est-ce que c'est tellement aberrant. Que c'est facile, qu'il faut arriver à dire que comme on fake les compétences, mais c'est de la malice en fait en ce moment.
Oui, ou que tu es juste que tu dis on va pas mettre les ressources pour régler ce problème-là, là, parce que ça va coûter X puis que j'ai juste pas envie parce que.
C'est une intention. Si tu décides que tu don't care, c'est de l'intention. C'est malicieux. Ouais. Nom de domaine. Vas-y, Sam. C'est à toi. Go.
Oui, je vais vous parler d'une étude publiée par InterIsle, qui est un groupe de consultants là, qui ont fait une recherche que j'ai quand même trouvée originale sur les noms de domaines. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est regarder en 2025 tous les noms de domaines qui ont été enregistrés, puis ensuite de voir ceux qui se sont retrouvés sur des listes de blocage. Donc, ils ont été bloqués parce que ils ont été rapportés comme étant malicieux, utilisés soit pour des attaques de phishing, utilisés pour des fraudes, des arnaques, etc. Ce qui est assez fou dans leurs chiffres, c'est qu'il y avait répertorié 85 millions de domaines créés en 2025, puis là-dessus, il y en a 8,5 millions qui se sont retrouvés bloqués, donc qui se sont avérés malicieux. Fait que tu as 10% des noms de domaines créés qui sont créés pour faire de la fraude, du vol, etc. Puis, ils disent que ce 10%-là, c'est le plancher. Parce qu'il y en a plus, parce que c'est juste ceux qui sont bloqués. Fait que ceux qui sont pas encore bloqués, ils sont pas dans ce chiffre-là. Puis, ils disent qu'il y en a qui ont été créés comme à la fin 2025, mais qui vont probablement être bloqués au début 2026, mais ça tombe en dehors de leur échantillon qu'ils regardaient. Donc, ils disaient, c'est clairement plus que 10%. Ça pourrait, tu sais, j'ai vu dans le texte, il me semble que ça va même jusqu'à 15-20, là, des noms de domaines en circulation. Une des choses qu'ils regardaient pour voir est-ce qu'un nom de domaine est valide ou plus malicieux, c'est ce qui est renouvelé. Donc, par exemple, si, je sais pas moi, si tu prends un nom de domaine pour ton projet de balado ou pour ton entreprise 4DG.com, tu as tendance à le renouveler à chaque année parce que oui. Tu veux garder ce nom de domaine-là. Si tu le fais parce que c'est juste un des 400 000 noms de domaine que tu as pour faire du phishing, tu le renouvelleras pas parce que tu n'en as pas besoin. C'est le fast-food du domaine.
Fait que tu prends le prix boni de la première année puis après tu passes juste à autre chose.
C'est pas tant le prix boni pour la première année, mais le prix boni parce que tu en achètes 500. qui est surtout le moteur qui joue. Ce qui est aussi, puis ça, c'est peut-être pas 100% surprenant, parce que quand j'ai fait des enquêtes qu'on a faites, par exemple, sur des réseaux de fraude, puis tout ça, c'est souvent les mêmes noms de registraires qui reviennent. Ben, il y a 5 registraires qui comptent pour 50% de toutes les des noms de domaines qui sont bloqués. Puis il y en a un, ben, il y avait 88% de tous les noms de domaines qui avaient été enregistrés avec lui qui se retrouvaient bloqués. Fait qu'il y a comme des registraires qui n'existent que pour enregistrer des noms de domaines pour des fraudeurs. 61%, c'était les nouveaux GTLD, là, fait que les .biz, .xyz, .studio, ceux qui sont pas les .com, .net, .edu, ceux du début de l'Internet. Là. Ça, c'est pas tant surprenant, parce que je sais pas pourquoi, on en voit quand même beaucoup. Puis le facteur principal qui fait que certains registraires vont être utilisés, c'est ceux qu'on peut acheter des noms de domaine de façon automatisée, en gros. Il y en avait, je pensais, il créait genre, c'est comme une affaire, comme 100 noms de domaine à la minute, là, qui avait été enregistré, là, ou 100 à l'heure. En tout cas, un nombre quand même assez impressionnant. Pendant 24 heures, là, il avait acheté je sais pas combien de noms de domaine. Puis, ceux justement où tu peux pas, à l'aide d'une API, donc à l'aide d'un programme, acheter des noms de domaine, parce que souvent tu vas le voir, par exemple, je pense qu'il y avait un exemple, là, c'est le point loan ou point studio, point, en tout cas, un de ceux-là. Ben, tu sais, t'as comme, 0001.studio, 002.studio, 003.studio, 004.studio, jusqu'à 999.studio qui ont tout été achetés dans le même temps, dans un temps court. Tu sais, okay, c'est la même personne qui, elle va pas faire 1 million de sites web, 999.studio. En tout cas. Mais ça a été fait de façon automatique. Puis c'est le plus gros facteur qui fait que ces services-là sont utilisés par des entreprises malicieuses. Ce que j'ai trouvé un peu décevant ou un peu bizarre dans ce rapport-là, c'est qu'il parle des facteurs du marché. C'est clairement un groupe de consultants qui croit beaucoup à la capacité du marché de réguler les choses. Parce qu'ils disent, il y a quand même certains incentive qui, juste comme tout, tu comprends que c'est pas quelque chose que le marché va régler, c'est quelque chose que ça va prendre des règlements, puis comme un marteau, c'est pas la
carotte. Les systèmes, quelque chose qui bloque,
puis encore une c'est fois. Ça que je... Puis d'ailleurs, peut-être vous pouvez me le dire, parce que je comprends pas pourquoi, par exemple, si t'as un registraire, que 88% des noms de domaine qui enregistrent se retrouvent bloqués, pourquoi est-ce qu'on lui en retire pas son permis de délivrer des noms de domaine. T'sais, c'est ça. Il y a. En tout cas, je sais que le ICANN, le IC, n'a pas une fonction policière. C'est très ingénieur. T'sais, les autres, ils gèrent le protocole. Puis... Mais c'est déjà arrivé qu'ils retirent des permis. T'sais, qu'ils disent pour telle raison aux autres. Mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus d'action. En tout cas, c'est. Je ne sais pas si vous avez des hypothèses.
C'est quelqu'un qui fait de l'argent. Le marché se régule?
Non, c'est que quelqu'un qui fait de l'argent puis comme il préfère laisser le problème avec
le même raison pour laquelle Facebook. Régule.
C'est la même raison pour laquelle Facebook enlève pas les spammers sur puis les fraudeurs. C'est parce que ça serait trop de la perte d'argent. T'sais, on en avait parlé dans le balado là, où est-ce qu'il avait monté une équipe pour éliminer les scams en ligne, puis finalement ça avait tellement affecté les revenus qui étaient comme c'est terminé, on arrête d'essayer de régler le problème. Pis c'est probablement le même enjeu. Pourquoi est-ce que ce fournisseur-là interviendrait quand c'est 80% de ses revenus? Il n'y a aucune raison pour lui de le faire.
Pas que lui intervienne. Lui, on le sait qu'il interviendra pas. Il n'y a aucun scrupule. Mais il y a...
Mais ben, dans il reste la faute à quelqu'un qui garde ça actif pour lui. Là.
C'est parce que les noms de domaine eux-mêmes ne sont pas une indication d'intention. Autant que qu'est-ce qui est fait avec. Fait que c'est plus difficile d'arriver avec un élément comme ça. On le sait que ça arrive à se faire servir comme ça. Et à l'heure actuelle, je crois plus aux mesures en amont qui vont être capables de bloquer, donc de ce qu'on pourrait dire que le marché se régule, c'est-à-dire que la plupart des systèmes plus modernes vont vérifier le nombre de temps que le domaine a été enregistré et avec un certain seuil. Donc, si ça fait juste 6 mois, mais ils vont systématiquement bloquer tous les courriels qui arrivent de ce domaine-là ou systématiquement vont bloquer tout accès à ce domaine-là si ça fait moins de 6 mois qu'il existe. Bon, ça pénalise du monde qui ont des nouveaux projets, mais c'est des mesures qui sont en place pour justement régler une partie de ce problème-là. Et là, on peut aller plus loin parce qu'il existe des marchés secondaires, c'est-à-dire des domaines qui ont été conservés pendant un certain nombre d'années, justement pour leur donner la légitimité d'existence et de pouvoir être réutilisés et revendus. Et ça, ces domaines-là ont plus de valeur parce qu'ils ont une crédibilité qui a été gagnée. Fait qu'il y a un paquet de marchés qui est étrange par rapport à ça. Je suis pas sûr qu'on a un marteau unique pour régler l'ensemble du problème, mais il y a effectivement place à regarder quelque chose. Il y a peut-être que la stratégie de la Belgique avec le CCB qui, eux, vont de niveau étatique. Les DNS du pays sont d'une source et vont bloquer systématiquement les sites qui sont considérés comme étant toxiques. D'un point de vue national et des chiffres qui ont été diffusés jusqu'à présent, ça semble avoir un effet réel sur le degré d'infection qu'il y a en Belgique versus dans d'autres pays comparables en Europe, par exemple.
Mais c'est ce que tu t'es rendu là, c'est que c'est comme le marché se régule, il me semble que la régulation la plus directe, c'est qu'à un certain point, si 80% plus des domaines de tels fournisseurs sont scammers, ben tu bloques le fournisseur au complet.
Oui, ben c'est ça, c'est de bloquer. C'est la seule stratégie, c'est qu'il y a des pays, comme la Belgique le fait, vont bloquer de façon systématique de point de vue national, pas genre 3 petits clins dans leur sous-sol, peuvent bloquer de point de vue, puis là, ça va protéger tout le monde, incluant nos parents qui ne connaissent peut-être pas nécessairement comment ça fonctionne. Puis c'est ça l'enjeu, parce que les vraies cibles de ces choses-là, c'est pas les gens qui se connaissent un peu, c'est les gens qui s'y connaissent pas. C'est là, il est là le danger réel pour ça. C'est pour ça qu'il faut des interventions. Peut-être comme santé publique, comme j'aime bien ce que la Belgique fait, là, c'est un peu invasif, mais j'aime bien quand même un point de vue national qui règle le problème, puis tu sais, voici, ciao, bye.
Mais oui, c'est une solution. Mais en même temps, par exemple, là, je vais nommer GoDaddy, mais il n'est pas dans les pays. Il était dans ceux qui enregistraient le plus de nombre de domaines, mais le pourcentage de ceux qui se faisaient bloquer et qui étaient malicieux était quand même assez faible comparé à la plupart. Mais disons que ce serait GoDaddy qui aurait 88% de ces noms de domaines qui seraient justement là, parce que c'est un que les gens connaissent. Là. Mais pourquoi est-ce que... Parce que pour pouvoir vendre des noms de domaine, faut que tu aies eu comme la permission de l'instance qui gère là, l'Internet. Puis cette instance-là a déjà retiré des permissions. Elle a déjà retiré à un registraire de dire « Ouais, toi, tu n'as plus le droit de donner des noms de domaine. C'est fini, là. Tu n'es pas responsable avec tes noms de domaine. Tu ne peux plus le faire. » Mais ça a été fait, comme de ce que je comprends, pour une technicalité, pas parce que l'usage était malicieux. Mais si tu as 88%, à un moment, c'est comme « Regarde, là, tu n'as pas mis en place ce qu'il faut pour... Tu n'as plus le droit de faire ça. » C'est comme si, je sais pas moi, j'avais un restaurant puis que tout le monde mourrait de la diarrhée après avoir mangé chez moi. Éventuellement, on fermerait mon restaurant en disant « Regarde, tu sais ce que tu
as fait. »
Celle-là, elle est bonne, mais c'est parce qu'on a des règles de santé publique qui viennent intervenir sur ce genre de choses-là, ce qu'on n'a pas sur les internets, parce que c'est genre, c'est le Far West encore. C'est pas encore très bien vu de légiférer. Et quand ils légifèrent, c'est tout croche en plus. Ils font ça comme des cabochons. On parlait de C22. C'est un exemple de genre, ils légifèrent pas à la bonne place, pas pour les bonnes raisons, avec une incompréhension assez forte. Parce que si on regarde le cafouillage des débats qu'il y a là-dessus, bien clairement, personne qui fait le débat comprend de ce qu'il dit. Fait que là, on se retrouve avec cette situation-là. En santé publique, heureusement, on n'est pas là. Il y a une longue histoire. Ça n'a pas toujours été beau. Mais maintenant, ils arrivent avec un certain degré de stabilité. Puis même chose, donc au Québec, ça va être le MAPAC qui va s'assurer que si les restaurants respectent un certain nombre de règles d'hygiène et s'il y a trop de plaintes de monde qui crève d'une diarrhée dans un restaurant, ben ils vont fermer le dit restaurant justement parce que les règles sont en place puis le système est en place pour réguler ça, ce qui n'est pas le cas pour Internet.
Ben, puis je pense aussi, mon analogie est mauvaise dans le sens que le restaurant, il est localisé à un endroit spécifique, dans un pays spécifique, alors que le registraire, il peut être à Dubaï, puis t'achètes ton nom de domaine, puis tu sais, le Canada peut bien adopter des lois. Si la compagnie est ailleurs. Fait que c'est ça aussi. Je comprends que le...
En fait, c'est que la compagnie qui émet les licences devrait avoir des politiques et des règles claires, puis ce genre de truc où est-ce que... L'équivalent d'être mis sur un pipe, là, où est-ce que comme, hey, toi, entité qui vend des licences, ce ratio-là est trop élevé. T'as un an pour corriger la situation, ou sinon, on te retire ton business, là, point.
Ouais. Ouais. Ben, je pense que c'est ça que ça prendrait, là, mais on n'est pas là.
Ouais, ça manque un peu de torque, point de vue international, pour se concerter, puis pour bloquer ce type de fonctionnement-là. À l'heure actuelle, on a un gouvernement américain qui est parti dans tous les sens, donc aucune vision. On a l'Europe qui a de la misère à se concerter sur des mesures qui pourraient être structurantes comme celle-là. Donc, on n'est pas face à deux acteurs qui sont à l'heure actuelle dans une position pour dire, OK, bien, nous, on arrête. Donc, dès lors, tous les domaines qui émanent de ce registre-là sont systématiquement bloqués en Europe. Et donc, tu réduis la valeur des noms de domaine. Donc, tu réduis l'intérêt pour les acheteurs. Donc, tu sais, il y a un paquet de mesures coercitives, si on veut, qui peuvent faire ça. Donc, si on disait que les Américains et les Européens disent, OK, on se concerte, dorénavant, ce registre-là, on bloque systématiquement chez nous les domaines qui émanent, mais on l'empêche pas d'opérer, mais on l'empêche de faire du mal.
Parlant d'acteurs
de menace. J'ai une licorne qui était je vais sortir ma licorne là, bientôt. Là.
Non, mais parlant d'acteurs de la menace, nos fameux tendances scammers et phishing, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les garçons. La bonne nouvelle, c'est que les attaques de phishing sont en baisse en termes de volume cette année. Alors que, tu sais, ça faisait plusieurs années où est-ce que c'était en constante augmentation. C'est ce fameux pivot-là que je vous parle. Il semblerait qu'il y ait une diminution. Par contre, la diminution n'est pas une bonne nouvelle. La raison pour laquelle les attaques continuent, c'est parce que les acteurs de la menace, nos fameux scammers, préfèrent maintenant faire de bons scénarios de phishing plutôt que beaucoup. Donc, ils optent pour la qualité plutôt que la quantité. Bref, c'est comme l'effet contraire du notification. En fait, les scammers ont décidé qu'ils focusaient sur l'équivalent d'un luxury phishing email. Où est-ce qu'ils vont focuser sur du top levant, des attaques qui valent la peine. C'est probablement une réaction de la théorie là, de qu'on que je lis en ligne, c'est que les outils essentiellement de filtre sont rendus tellement sophistiqués que ça vaut plus la peine. On faisait souvent le commentaire de « Ah, mais tu sais, c'est... » les scams de prince nigérien qui cliquent là-dessus. Puis la théorie, c'est ben, si quelqu'un envoie 1,5 million courriels de prince nigérien, c'est que quelqu'un qui clique dessus puis que ça vaut la peine. Mais en fond, ce qu'on voit en ce moment, c'est que semblerait que ça ne vaille plus la peine, ce genre de phishing-là à grand filet. Et que maintenant, ben, on va falloir s'attendre à des attaques beaucoup plus sophistiquées qui préparent ton verre de vin, Nicolas Loïc, sont entre autres facilité roulement de tambour par... l'IA, bien entendu. Les outils de génération de langage particulièrement qui vont aider là, à crafter des courriels un peu plus sophistiqués. Mais je trouve ça quand même intéressant parce qu'on parlait là, vraiment d'une baisse qui était relativement significative. 20% en 2024, puis un autre 20% en 2025. Fait que c'est quand même des gros drops là, qui commencent à se voir. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'aller sur le silver lining là-dessus? Tous les envois de courriels qu'on avaient un impact environnemental quand même assez important. La baisse de courriels malicieux peut en fait être un truc positif. Quoi qu'on se doute que vu qu'on brûle une forêt pour rédiger le courriel en amont, maintenant...
Je ne dirais pas jusque-là parce que l'usage de l'outil que je ne nommerai pas est énormément consommateur d'énergie. Je ne sais pas si c'est du un pour un en l'occurrence.
On va essayons d'être positif un peu. Je me trouvais vraiment drabe puis négatif là, depuis le début de l'émission. Là. Fait qu'essayons de s'accrocher où est-ce qu'on peut là, à tes souhaits. Ça.
Excusez.
T'as la tuberculose?
Malheureusement pas, non.
Fait que c'était un peu mon pivoting de l'article. Je trouvais ça intéressant. Ce que ça me dit, c'est que si jamais vous êtes en charge de faire des campagnes de phishing pour l'organisation pour laquelle vous travaillez, ben justement de peut-être considérer que maintenant, c'est genre de... Je sais qu'il y a une grosse tendance là, d'automatiser tout ça, là, puis d'envoyer des scénarios de base, etc., qui n'ont pas besoin d'être approuvés par les ressources humaines, mais c'est peut-être qu'il y a une intention, vu que les attaques vont augmenter de niveau, d'augmenter le niveau de nos tests aussi pour pratiquer les gens, vraiment faire de la sensibilisation sur les risques du spoofing, puis des trucs plus d'ingénierie sociale élevée que le fameux courriel de reset de mot de passe, qui est peut-être plus nécessairement le genre de fiche qu'on va voir là, en grande quantité. Surtout que ce genre de fiche-là, de toute façon, était généralement arrêté par nos filtres courriel de toute façon. Pas de commentaires, je continue avec OK. Deuxième fun story. En fait, c'est genre une anecdote. C'est genre, tu sais, les petites nouvelles variées du jour. C'est vraiment tragique pour les personnes qui sont impactées par ça. Mais d'un point de vue high level, c'est quand même cocasse. Tu sais, comme tous les enjeux autour des trucs connectés, là. On avait parlé, entre autres, là, du matelas l'autre jour, là, qui, en panne de courant, fonctionnait plus.
Non, en panne d'AWS ne fonctionnait plus. C'est pire.
Ouais. Et c'est encore
Amazon. Plus le mettre là.
C'est encore Amazon, puis c'est des objets connectés. Cette fois-ci, ça concerne les camions de livraison des chauffeurs Amazon. Ils ont poussé une update qui, j'assume, a été justifiée pour des enjeux écologiques. Où est-ce que, justement, l'air conditionné se ferme automatiquement après un certain temps idle? Où est-ce que les fesses du chauffeur sont plus assises sur le siège? Le problème, c'est que l'update pousse ça aux 30 secondes. Fait que si tes fesses sont pas sur le coussin 30 secondes, une minute, t'as plus d'air conditionné. Sachant comment ça fonctionne, une livraison typique, les fesses du chauffeur sont régulièrement pas sur son siège au bout de 30 secondes. C'est probablement vraiment désagréable, voire dangereux, de rentrer après 2-3 paquets à une voiture brûlante et infernale.
Mais les changements de température réguliers aussi, ils se rassoient, ça se repart, le morceau de l'eau de l'air froid en face, il sort dehors, il fait chaud, bien se rassoit, il cuit. Pouf, de l'air froid dans le visage. C'est un drôle de traitement à choc. C'est peut-être un spa qui voulait l'idée en arrière de ça. Y a-t-il une idée thérapeutique qui n'a pas été divulguée correctement?
J'apprécie le positivisme. Je pense que c'est juste quelqu'un qui n'est pas sur le terrain qui n'a pas pensé à son update plus loin qu'il faut. Qui s'est dit que ça allait être c'est parfait, ça nous sauve de l'argent, puis on call it a day, puis voilà.
Quand même.
C'est outre, là. On est en été, là. Fait que c'est quand même très dangereux aussi. C'est potentiellement super dangereux, en fait, comme update, là. Il y a des chauffeurs Amazon qui sont dans des températures infernales au Texas en ce moment, là. Puis c'est comme choquant de savoir qu'ils n'ont pas l'air climatisé entre, justement, là, deux livraisons de paquets. Je pense que leurs conditions sont assez misérables aussi, là, aux gens qui travaillent chez Amazon. On dirait que c'est comme à quel point t'es cheap. Comme entreprise, où est-ce que tu coupes le système d'air climatisé de tes chauffeurs? Parce qu'il y a ça aussi, là. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que, tu sais, je pense pas que c'est vraiment l'environnement qui a comme guidé le cœur de Bezos sur cette décision-là. Tu sais, je pense que c'est les coûts. Ils se sont dit, on va résoudre les coûts. Yeah.
C'est où on s'en va, un peu comme on parlait avec les lois qui sont pas réfléchies, avec une méconnaissance des effets légaux et sociétaux de ces lois-là. C'est encore une situation où les gens ne connaissent font des choses sans connaître, puis c'est rendu épidémique cette situation-là, où les gens dans leur tour d'ivoire, de façon plus massive, peut-être parce qu'il y a plus de gens dans une tour d'ivoire aussi qu'à une certaine époque. Je sais pas, parce que il me semble que c'est rapporté de plus en plus des espèces de décisions absurdes qui ne tiennent pas compte de la réalité terrain des personnes.
Oui, puis j'ai un fil directeur avec cette nouvelle aussi parce qu'il y a la réponse des personnes en relations publiques qui est... le spokesperson d'Amazon a réitéré que malgré tout ça, les conducteurs avaient des sièges refroidissants. C'est correct, you know. Parce que who needs AC quand ton siège est froid? Puis que l'update en particulier a été timé avec l'été, justement pour augmenter le confort des conducteurs et la durée de la batterie.
Une livraison de plus avec une seule charge.
Je pense que j'ai développé un nouvel hobby qui est de... Chaque fois qu'il y a comme un truc vraiment dystopique, tech, d'aller voir à quel point la réponse PR est super absurde en parallèle. Parce que j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment vu une bonne réponse à ce genre de situation-là.
Mais peut-il avoir une bonne réponse?
Oui,
à
on
ça,
est vraiment désolé, chose? C'était une conséquence qui n'était pas intended. On travaille activement sur un nouvel update pour s'assurer que nos conducteurs sont en sécurité avant les grands mois d'été.
Mais ça, c'est, juste c'est dire ça. C'est ça que tu penses que tu vas faire, là. Tu
mais c'est ça, la réponse. Au pire, mets-la jamais la réponse. Au pire, mets-la jamais ton update, là. Puis espère que des gens s'ennuient puis passent à autre chose, là. Mais la seule bonne réponse à cette situation-là, c'est pas tant grave. Puis en fait, c'était pour le confort puis pour augmenter nos batteries. La bonne réponse, c'est we fuck up, genre. Puis on va essayer de régler le problème. Sorry, guys. Genre, on est conscient de la chose. Ça me fascine. On dirait le manque d'accountability. C'est correct d'admettre, tu sais, au pire, je peux concevoir, mettons. Oui. Parce que, honnêtement, j'aurais beaucoup plus d'empathie si la réponse c'était on n'y avait pas vraiment pensé. L'objectif, c'était une mesure écologique pour sauver nos batteries, blablabla. Puis là, on réalise que c'est un problème, donc on veut reverse, ne vous en faites pas. J'aurais beaucoup plus de respect pour la compagnie si c'était ça la réponse. Genre, on a fait une erreur, on veut reverse ça, sorry, que. Mais non, c'était une bonne idée.
Dis-toi qu'à l'heure actuelle, quand je vois une réponse comme ça, puis c'est rare qu'on en voit, je trouve ça rafraîchissant.
Oui.
D'avoir une réponse honnête, dire oups, on s'est trompé, c'est un accident. On va travailler dessus, on va régler le problème qu'on a créé. Ciao, bye. Là, c'est juste du spin, puis partout en politique, c'est comme ça. Dans les compagnies, c'est comme ça. C'est partout comme ça. Ah, ben là, on a trouvé une excuse bizarre, bidon, généralement, pour justifier le changement qu'on a raté. Mais c'est juste ça. C'est comme si elle avait une maladie de pas être capable de juste faire comme oups, on est des humains, on a fait une erreur.
Mais c'est facile parce que je me rappelle, mettons, à l'école, quand on avait des cours de relations publiques, une des choses qui nous était beaucoup poussée, c'était l'authenticité. C'était vraiment d'être comme, c'était préférable d'être authentique. Les gens sont plus réceptifs à l'authenticité qu'à un faux maintien de perfection que personne n'y croit, en fait, essentiellement. Puis, je sais pas, on dirait que, je sais pas, qu'est-ce que la cohorte actuelle de personnes en relation publique, du moins ceux qui se retrouvent en tech, ont manqué le mémo. Parce que c'est juste ça que je vois, on dirait que des gens de détournement, d'essayer de gaslighter les gens, que c'est pas vrai. Genre, je sais pas, genre, je suis comme. Mais tu sais, comme les gens sont pas stupides, ils le voient bien, là. C'est comme le truc de Flock, justement, avec Amazon. Tu sais, comme tout le monde a vu que le fait que c'était vraiment creepy de pouvoir utiliser des caméras Ring de tout le monde pour, comme, traquer des chiens perdus. T'sais, comme clairement, tout le monde a immédiatement fait. Ça m'énerve qu'ils nous prennent pour des cons, en fait.
Mais avec qui ces gens-là parlent? Parce que, tu sais, c'est une
ben, ils parlent à leurs patrons qui sont tous des tech bros, genre. Sur la mètre, là, je sais pas quoi vous dire. C'est genre. Clairement, c'est genre.
Mais c'est tous des gens qui sont déconnectés comme s'ils n'avaient jamais vécu dans la société avec d'autres humains. Fait que, c'est fascinant. Je peux pas imaginer que ces personnes-là, ces hommes et ces femmes-là, rentrent à la maison le soir, vont parler à leurs conjoints et à leurs enfants. Et disent, hey, la bonne idée que j'ai eue aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à surveiller les chiens partout. Puis je pense même le test de la famille est normalement assez suffisant pour dire, ouais, mais t'as-tu réfléchi que c'est un peu bizarre?
Yeah, je sais pas. Les gens sont dans leur tour d'ivoire, peut-être, ou je sais pas.
Mais degré de déconnexion, peut-être que je vis et je suis rendu cynique, là, mais je trouve que c'est pire que pire. Il me semble que dans le bon vieux temps, c'était pas si pire que ça, qu'on n'était pas. On se faisait pas bourrer comme on se fait bourrer là. C'est peut-être plus. Je le sens plus que je me fais bourrer avant, je le sentais
mais
pas.
Mais je pense que s'il y a eu comme un retour. Tu sais, comme il y a eu un bandelé, là. Je pense qu'on regarde avec nostalgie, mais tu sais, dans les années 50, il y en avait plein de trucs absurdes comme ça, là, d'un docteur qui dit que la cigarette, c'est bon pour la santé. Je pense qu'il y a comme eu un virement où est-ce que dans les années 2000, il y avait comme eu un revirement de situation de gens un peu hopeful qui arrivaient sur le marché de l'emploi puis qui étaient comme, on va changer le monde avec la créativité. Puis il y avait tout ce besoin d'authenticité-là, d'honnêteté à travers la publicité. Puis on a eu comme une couple d'années où est-ce que les brands prétendaient au moins pas être straight-up evil. Puis là, on dirait que... Ben, tu sais, je pense qu'un des trucs symboliques, c'est le fait que Google a enlevé son logo « Don't be evil » sur leur mur. Puis comme, c'est pour moi, ça aurait dû faire sourciller plus de gens. Que c'est comme, j'ai l'impression qu'on devrait être vraiment plus outrés de comme dire genre non, c'est plus nous, ça en fait, c'est comme on embrace l'opposé. Puis on dirait que ça lui donnait la permission à toutes les autres marques de tech d'être rivales. Puis il y a vraiment eu un Je sais pas. Puis il y a comme trois tech bros qui sont clairement genre tout dans des.
Ouais, il s'agit de parler de Palantir qui, littéralement son manifesto est fasciste. C'est-à-dire là, c'est pas plus dénoncé que ça. Là, puis ça crée des tensions internes. Puis là, ça crée. Là, puis là, c'est comme de voir. Puis c'est,
un mémo?
Il y a des employés qui quittent.
J'ai-tu manqué ça?
T'as pas vu le manifesto de fasciste du dirigeant de Palantir?
Donc, t'as raté ça,
t'as raté quelque chose de bien, là.
Excusez-moi, pourquoi ça n'a pas été proposé comme sujet d'émission? Ça me suis vraiment déçu.
Ça fait déjà un petit bout. Ça date.
C'est vieux, c'est une vieille nouvelle. C'est pour ça que ça
la pas... vieille nouvelle.
Ça fait vieux.
Ça fait un mois.
Ben, c'était pas autre enregistrement, là.
Non, c'était prêt.
Puis on n'en a pas parlé. C'est quoi ça?
Ben, c'est juste parti du. Ben, la dernière fois, je sais pas si ben, on a vraiment de la misère à rester sur un sujet, là. Ça a été très, très désordonné. On en a peut-être parlé, je sais, je me rappelle plus.
Non, on en a pas. Non, si j'avais
entendu. Non, je te niaise, là. Je sais qu'on en a pas parlé. Mais,
OK. Un 22-point manifesto. Pour. OK. Je sais, c'est quoi les points? Parlez-moi ça. Expliquez-moi les trucs.
Ah, mais j'ai pas relu ça là. Fait qu'on peut pas faire ça aujourd'hui.
Ah! Oh.
Faut pas faire ça live comme ça, mais oui, il a sorti ça. Puis, tu sais, ça crée un malaise important partout, même chez les employés. Ça fait comme, ben là, ça commence à devenir un peu too much. Quand c'est comme dissimulé, les employés, pour beaucoup, vont accepter malgré tout. Mais quand c'est plus dissimulé comme ça, là, ça devient difficile de dire que tu es aligné avec les valeurs de ton entreprise. Beaucoup. Fait que, tu sais, il y a des gens qui se font congédier d'ailleurs parce qu'ils sont pas suffisamment alignés avec ces valeurs-là chez Palantir. Fait que, bref, c'est vraiment étrange comme concept. Mais c'est dans le même mouvement qu'on voit aux États-Unis, cette espèce de awkwardness. Bref, c'est vraiment très particulier. J'ai un énorme malaise avec ce qui se passe. Puis, on cautionne ça jusqu'à un certain point.
Ben, tu sais, en fait, je pense qu'on en revient encore, c'est la gang de PayPal qui ont comme, je sais pas c'est quoi le petit pacte qui se sont fait entre bros, genre de PayPal, au moment de comme avoir créé ça, mais on dirait que tous les enjeux actuels peuvent être pointés sur quelqu'un qui était impliqué avec PayPal.
C'est peut-être eux qui ont initié le mouvement de kétamine aux États-Unis.
C'est eux les vrais lézards. Non, mais ouais,
peut-être que c'est les vrais lézards.
J'allais lire un.
Conspi.
Non. J'allais lire un. Moi, ouais, j'avoue que les deux, trois lignes que j'ai réussi à avoir sont pas. Moi, je pense que ça mériterait une émission spéciale. Là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on devrait discuter plus agressivement de.
On pourrait faire un épisode juste sur Palantir, mais ce serait un épisode.
Oui.
OK. Gardons ça sur la liste, la to-do list.
Et ça serait lourd comme épisode, j'ai l'impression. Je pense qu'on se sentirait pas bien. Préparez votre vin. Clairement, un épisode qu'on doit enregistrer avec un petit verre là, à côté. Là. Je me fais un martini extra dirty pour l'occasion, for sure. Là. Comme nous font un petit...
Mais dans un soluté, c'est comme direct dans la veine.
Pour être capable de survivre à ce que ça va être. Là. Ouais, effectivement. Là. Mais merci de m'avoir quand même sauvé. J'ai juste pris deux gorgées. Là. Vous m'avez quand même préservé.
On a fait attention à toi. OK.
On conclut sur ça?
Ben, yes, on conclut sur ça. On a un plan pour une prochaine épisode. Écoute, j'avais prévu de finir sur l'anecdote légère d'un arc conditionné, mais finalement, non, on finit encore en mode... Parlons de la dystopie imminente dans laquelle on est propulsé par des tech bros. OK. La broligarchie. That's it pour aujourd'hui. Merci. Merci aux 5 personnes qui sont avec nous. On va rester en post-show avec les gens qui sont sur Twitch comme à notre habitude, même si l'heure de sommeil de Sam approche dangereusement. On vous remercie d'avoir été avec nous.
On n'étirera pas ça trop longtemps pour laisser une chance à Sam.
Il faut qu'elle prenne sa tisane, là, ça l'achève. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de partager le balado autour de vous pour le faire connaître, en faire parler. Et on vous dit à la prochaine.
À la prochaine. Bye.